Voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, quelle responsabilité sociale pour les entreprises en Afrique? Pour en parler, je reçois trois patrons de PME de passage en France. Moussa Dia, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes sénégalais, fabricant de matériaux de construction au Sénégal. Gabriel Fopa, qui est à côté de vous, bonjour.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous vos éditeurs.
Vous êtes camerounais, vous êtes informaticien. Après des études en France, vous êtes rentré au Cameroun et vous avez monté une société de conseil et services informatiques. Et vous avez parmi vos clients des multinationales, vous nous en parlerez. Également un voisin malgache qui est de passage à Paris. Bonjour Simon Rakoton-Draouv.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs également.
Vous êtes exportateur, vous, de litchi et bientôt de litchi transformé d'ailleurs. Vous allez nous parler de vos projets. À vos côtés, Elodie Noquet, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes responsable des questions environnementales, sociales et de gouvernance chez Investisseurs et Partenaires. C'est un fonds d'investissement qui mise sur les PME africaines et exclusivement sur les PME africaines. Vous avez une quinzaine de pays dans votre portefeuille, c'est ça ?
C'est ça, c'est ouais. Ça. Et on a 6 bureaux aujourd'hui en Afrique.
C'est ça, et 50 PME
et
africaines.
Une cinquantaine de PME aujourd'hui qu'on accompagne en Afrique.
On sera également en ligne avec Thierry Téné au Cameroun, qui est directeur de l'Institut Afrique RSE, responsabilité sociale des entreprises. Être patron de PME en Afrique, quelle responsabilité sociale ? Évidemment, vous allez tous nous parler de votre quotidien, les attentes de vos salariés, de leur famille et même de toute une communauté derrière. Et quant à vous, les voisins et les voisines, nous attendons vos témoignages, vos points de vue. L'entreprise pour laquelle vous travaillez joue-t-elle un rôle social dans votre ville ? L'économie responsable est-elle, selon vous, compatible avec le business ? Ça, c'est la grande question. Appelez-nous surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, vous postez aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag 7 milliards. Je vous lis un seul message, parce que je peux vous dire que les auditeurs sont assez perplexes finalement. Quant à notre sujet du jour, Ibrahim N'Djamena Tchad, réponse très simple. Je n'ai jamais vu une entreprise en Afrique qui se souciait de ses employés. En général, ils recrutent des illettrés pour mieux les exploiter. Les assurances n'existent pas, le salaire est minime, la situation est très difficile. Seulement, comme ils ne veulent pas perdre leur emploi, ils sont condamnés à cette situation. Oui, sur Facebook, c'est toujours très cash, hein, comme ça, les messages. Je vous vois sourire. Gabriel ?
Non, mais de toute façon, ce n'est
pas
possible.
Ça ne vous étonne pas, ce genre de message ?
Bon, non, je pense que ce n'est pas en ligne avec la réalité, parce que nous, dans le secteur informatique, nous travaillons pour des clients qui sont très exigeants. Donc, cette exigence oblige que nos collaborateurs, non seulement soient un peu qualifiés, et qu'on s'arrange à les former, voilà.
Moussa Dia, vous avez, c'est un peu l'image qu'on vous renvoie aussi, vous, en tant que patron, parfois ?
Pas
ce
tellement.
Ce genre de message ?
Non, pas tellement, parce que je pense que nous sommes une nouvelle génération d'entrepreneurs et nous avons un credo. Nous savons que nous créons de la richesse et nous savons qu'aujourd'hui il faut qu'il y ait de l'écoute par rapport aux citoyens qui nous entourent. Il n'est pas normal que nous exploitons les richesses d'un territoire ou d'un terroir et partir.
Les poches pleines.
Oui, les poches pleines et partir. C'est Simon, notre pays.
Simon, pour vous raconter un Draouv à Madagascar.
Vous savez, nous qui sommes dans un secteur très sensible à Madagascar, et je crois que même aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'objectif de développement durable, comment ne dissocier, l'intérêt de la grande majorité de la population malgache qui est rurale dans le développement, dans notre stratégie, dans notre politique. Donc, il est, pour nous, c'est une intégration qui doit être spontanée au niveau de l'entreprise comme la nôtre, le partage. Donc, il faut absolument que nous retournions vers les paysans producteurs qui garantissent notre stabilité, notre présence sur le marché.
Alors, vous allez nous expliquer, bien au-delà du business, comment vous apportez quelque chose à la communauté à laquelle vous faites forcément partie. Hein. Moussa Dia, vous avez, après vos études en Roumanie, en génie civil, vous avez monté dans les années 80 au Sénégal une entreprise de construction mécanique hein, qui a été très rentable et dans la région de Saint-Louis. Et aujourd'hui, vous avez une deuxième entreprise qui démarre depuis quelques mois, de terre cuite pour le bâtiment dans la région de Thiès, donc c'est pas très loin de Dakar, c'est la région des cimentiers. Votre entreprise s'appelle Sofamac. Vous êtes évidemment, de par votre parcours, vous êtes d'abord avant tout un entrepreneur. À quel moment a émergé chez vous, dans votre vie, dans votre conscience d'entrepreneur, la question de votre rôle social? Il y a eu un déclic, vous vous souvenez de ça?
Oui, très tôt, il y a eu un déclic. Avant même que je termine mes études, moi je savais que je ne suis pas fait pour être salarié. Parce que je vis dans un pays où, comme si on était des damnés de la terre, et chacun, quand il terminait ses études, essayait de chercher un emploi. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas être de l'autre côté, créer des emplois? Et personne ne peut faire ça à notre place au Sénégal. Il n'y avait que des étrangers qui avaient des entreprises. Donc moi, je me suis battu très tôt. Je tiens à dire que je suis issu de famille très modeste. Au début, je n'ai pas eu de ligne de crédit. J'ai travaillé au bord de la route. Je me suis battu seul et j'ai eu à créer mon entreprise dans ce contexte.
Vous avez commencé juste avec quelques employés?
Oui, j'ai eu à commencer avec quelques employés. Et chaque fois que, je me souviens, chaque fois que le soir, que je me disais que bon, je laisse tomber parce qu'il y avait tellement de difficultés. Mais quand je pensais à mes employés qui n'avaient que comme ressource ce que je devais leur donner, le matin je me réveillais en forme pour aller me battre.
C'était comme un aiguillon. Et les familles derrière.
Et les familles derrière, parce que il y avait des gens qui avaient des élèves qui payaient les études de leurs enfants. Et, du point de vue conscience, c'était très lourd pour moi. Et c'est ce qui faisait un aiguillon qui me poussait à aller à l'avant.
Gabriel Fauppa, vous, qu'est-ce qui a, je dirais, contribué à votre réussite? Parce que vous avez monté une entreprise de conseil en informatique, de services informatiques, dans un pays où, c'est vrai, les multinationales que vous avez aujourd'hui comme clients ont l'habitude de se tourner vers des entreprises déjà très bien installées. Vous êtes arrivé le petit nouveau, hein, on va dire, même si vous êtes largement diplômé. Qu'est-ce qui a contribué à votre réussite? Est-ce que c'est l'État, les clients, les employés, les banques?
Non, je dirais que c'est d'abord l'amour et l'envie de servir. Je crois qu'à un moment donné, ayant été formé en France, ayant évolué en France, j'étais brûlé par un appel. Il fallait faire quelque chose pour l'Afrique, il fallait rentrer, il fallait faire quelque chose pour l'Afrique. En 2005, quand nous avons commencé, je n'avais que deux collaborateurs. Et je savais, j'étais habité par l'idée qu'on ne fait pas une entreprise pour gagner de l'argent. D'abord un objectif, on fait une entreprise parce qu'on a un projet qui va impacter la société. L'argent est une conséquence. Donc on a travaillé très dur à cette époque-là. Il n'y avait que des entreprises multinationales avec des régies financières fortes. C'est par le travail, la passion que nous avons gagné chaque périmètre, chaque millimètre dans ce marché où aujourd'hui on est reconnu comme une entreprise majeure. On impacte la plupart des projets structurants.
Mais aujourd'hui, là, votre responsabilité sociale, ce n'est pas seulement votre responsabilité en tant que chef d'entreprise parce que vous avez créé des emplois. Ça va au-delà.
Oui, ça va largement au-delà. Déjà, au niveau de l'entreprise, le fait, à l'époque, j'ai discuté avec le consul qui me dit mais comment vous faites pour qu'on donne des visas à vos collaborateurs? Ils partent, ils reviennent. Alors, parce qu'ils vont en formation.
Que vous envoyez en formation.
Voilà, ouais. Ils vont en formation en France, en Allemagne, en Afrique du Sud. Ils reviennent parce qu'ils sont contents de faire ce travail. Et ils sont contents de faire ce travail dans leur pays, de servir leur famille. Ça, c'est déjà un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que travaillant avec les multinationales, je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'une affaire de bas coût pour eux. Ils voulaient des collaborateurs qui soient à un certain niveau techniquement. Et j'ai essayé de voir comment je pouvais aussi influencer les instituts de formation pour pouvoir pousser le niveau.
Donc, mais ça, je suis rentré... là, c'est un un calcul sur le long terme, c'est-à-dire jouer sur la formation des jeunes. Vous n'en êtes pas bénéficiaire directement, ça prend du temps.
Nous avons monté un
partenariat avec l'Université Polytechnique de Yaoundé.
Avec Polytechnique de Yaoundé, on utilise à peine 1 ou 2% des promotions qui sont sorties. Mais là, tout de suite, j'ai senti que l'informatique ou la technique en tant que telle n'est pas une complexité. Au fond, c'est vraiment former quelqu'un à ouvrir une porte, c'est très facile. Donc, l'accessibilité à la technologie, s'il y a quelque chose qui devrait accélérer le développement de l'Afrique aujourd'hui, et c'est l'accès à la technologie qui transforme les systèmes de production.
Ouais. Vous avez créé un labo aussi à Douala,
nous avons investi dans un laboratoire qui contient en miniature tout ce qu'on voit dans les entreprises. Nous avons équipé une salle à l'école polytechnique pour permettre aux étudiants d'avoir des travaux pratiques et donc de pouvoir toucher au moins, parce que la plupart faisaient des cycles de formation sans avoir touché un équipement, et ce qui fait qu'ils arrivaient très démunis sur le terrain. Donc, nous avons aussi convaincu nos clients de mettre à disposition des experts, leurs collaborateurs, pour qu'ils puissent animer les laboratoires.
C'est beaucoup de travail en plus, qui n'impacte pas le business directement.
Mais je pense qu'en tant qu'Africain, le sens de la communauté, le sens de l'autre est un continuum de soi, est une évidence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoluer en Afrique si on ne fait pas communauté. Et le sens de la communauté a...
C'est pas ce que disait notre auditeur qui postait ce message sur Facebook, en tout cas sur les patrons en Afrique.
Bon, disons qu'il y a une perception...
Donc j'espère qu'on va avoir des réactions, je ne sais pas.
Je voudrais penser que c'est une certaine génération, mais la nôtre, surtout celle qui a vécu à l'étranger, quand elle rentre aussi avec la conscience que les autres réussissent, parce que la vision collaborative et communautaire est une réalité.
Simon Rakotondrao, vous êtes malgache, vous n'êtes jamais parti de Madagascar, vous êtes un produit 100% malgache.
Tout à fait, j'ai eu l'occasion de parcourir le monde, de par mon métier, mais c'est un choix que j'ai fait, et à part, donc, ce sont les enfants qui sont partis à l'extérieur, ça aussi c'est un choix. Mais moi personnellement, c'est à partir d'un constat par rapport à mes deux prédécesseurs, c'est un constat justement de la réalité malgache.
Vous avez un business, c'est très simple à comprendre, vous faites de la collecte, du traitement, de l'exportation de litchi. Vous n'avez pas encore apporté de litchi d'ailleurs aujourd'hui. Je suis très déçue parce que c'est un fruit absolument délicieux pour ceux qui n'en auraient jamais mangé, qui est d'une finesse. Voilà, Madagascar, première exportateur de litchi, c'est pas encore la saison là, c'est ça ?
Bientôt.
Vous, dans votre histoire d'entreprise pour Scrimad, vous constatez que vos litchis qui sont exclusivement exportés, il y a des pertes gigantesques parce qu'il y a une grosse partie des fruits qui ne sont pas exportables. Tout ça parce que ça répond pas aux normes, c'est ça, d'une clientèle aux normes. Donc, il y a des fruits qui pourrissent, c'est ça, sur l'arbre.
Oui, oui.
Qui n'ont pas non plus suffisamment de débouchés sur les marchés locaux. Faute de route pour les acheminer, parfois aussi.
Oui, d'un côté, vous savez, le litchi de Madagascar n'est exploité qu'à 30% aujourd'hui. C'est faute de marché, justement, s'il y a presque 20 ans passé, Madagascar exportait aux environs de 600 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 20 000 tonnes, qui nous représente, comme j'ai dit, donc avec la consommation locale, qu'à peu près le tiers de notre potentialité.
Et tout ça sur une saison très très courte.
Très très courte.
La récolte, c'est... En gros, vous chargez un cargo de 7000 tonnes de litchi en 3 jours, la région de Tamatave.
En 3 nuits et 4 jours à peu près. Donc, vous voyez cette capacité tout de même d'organisation, c'est très particulier.
Avec tous les petits producteurs qui arrivent.
Avec des petits producteurs qui n'ont que peut-être 4 ou 5 pieds de litchi. Un pied de litchi, ça ne donne qu'à peu près entre 25 et 250 kilos maximum.
Ça veut dire que c'est un marché exclusivement de petits producteurs.
Tout à fait. Et c'est là le défi. C'est là, comme a dit mon prédécesseur Gabriel, vous savez, il a tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas faire sans justement le monde rural chez nous. Puisque soit donc l'entreprise fait en régie, qui n'est pas la vocation d'une entreprise comme la nôtre, mais surtout d'être le pont entre le marché extérieur et le marché local. Donc pour nous, comment, à partir du moment où on fait du triage et qu'on a, je dirais, presque 20% de produits qu'on ne peut pas exporter pour répondre à des référentiels, mais qui peuvent être valorisés si on a plutôt une autre activité de transformation.
D'autant plus que comme la saison est très courte, le reste du temps, les planteurs n'ont pas de travail finalement.
Tout à fait. Hein? Et là, c'est vrai avec cette approche aujourd'hui. Et c'est là où nous, on joue le rôle au niveau social et économique en multipliant, en augmentant déjà la période d'exploitation de du litchi, puisque là, en ce moment, on fait la collecte que pendant 10 jours, alors que le produit peut être disponible pendant au moins 30 jours.
Mais alors, quand vous vous dites comment valoriser ces litchis qui vont pourrir sur les arbres, qui ne sont pas suffisamment aux normes pour un marché européen, c'est un raisonnement business ou c'est aussi un raisonnement de responsabilité sociale vis-à-vis de la communauté qui vous entoure dans un pays d'une extrême pauvreté, il faut le rappeler, Madagascar.
Oui, je pense que c'est plutôt le niveau social, mais pourtant, il faut le dire, puisque nous ne sommes pas, une association de bienfaisance, bien entendu. Pour nous, le social est très important, le volet social, puisque en augmentant les revenus, justement, de nos producteurs, on les fidélise et on est en train de créer une stabilité, puisque là, il y a une formation qui suit. Mmh. Hein, pour répondre, comme j'ai dit, à des référentiels. Il y a aussi des volets au niveau de l'hygiène, de la santé, puisque, par exemple, nous avons des partenaires financiers qui nous demandent, par exemple, tout ce qui est l'éducation contre le VIH, SIDA et autres. Donc, pour nous, ça devient une approche qui est tout à fait spontanée, hein, pour pouvoir instaurer notre projet dans le site d'implantation d'une part, et puis aussi qui va garantir le développement de l'entreprise.
Vous avez un atelier donc de transformation qui va démarrer là dans quelques jours, hein, qui va faire du litchi congelé, qui sera de la matière première pour l'industrie agroalimentaire, notamment en Europe. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, quelle responsabilité sociale pour les patrons aujourd'hui sur le continent africain? Bien sûr, vous pouvez réagir au témoignage de nos trois patrons de PME, 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Élodie Nauquet, vous êtes responsable des questions environnementales, sociales et de gouvernance chez Investisseurs et Partenaires. C'est un fonds d'investissement donc, qui mise exclusivement sur les PME africaines, avec une cinquantaine de PME dont vous avez une partie du capital. Vous réunissez chaque année d'ailleurs tous les patrons de PME, c'est-à-dire une cinquantaine de patrons, pour 3 jours. Là, ils sont réunis à Fontainebleau, à l'INSEAD. Il faut quand même préciser que vous vous retrouvez tous, là, les patrons, dans une école pour dirigeants d'entreprise, hein, c'est le MBA probablement le plus coté d'Europe, pour parler cette année de la responsabilité sociale des entreprises en Afrique. Votre fonds d'investissement décide d'investir donc sur des critères, bien sûr, avant tout business, rentabilité, perspective du marché, mais aussi sur d'autres critères sociaux, lesquels ?
Oui, nous ce qu'on cherche, et je crois que les trois chefs d'entreprise qui sont là aujourd'hui l'illustrent parfaitement, on cherche des entreprises qui vont réussir, ça c'est très important, qui vont être pérennes, mais aussi qui vont créer des impacts locaux, des impacts sociaux et environnementaux. Donc nous, quand on étudie une entreprise, on s'attache vraiment à comprendre si l'entrepreneur est engagé pour améliorer ses pratiques. Donc par exemple, quand on a étudié le projet de Moussa, on a été sur place pour voir l'usine de terre cuite et on a été interroger ses salariés pour savoir quelles sont vos conditions de travail. Est-ce que votre sécurité au travail est assurée? Est-ce que vous avez une cantine pour déjeuner? Voilà, ce genre de choses extrêmement concrètes pour s'assurer que ces entreprises dans lesquelles on s'apprête à investir assurent des rémunérations et un travail décent à tous leurs employés. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, très important dans notre démarche. Et l'idée, ce n'est pas du tout de juger ces entrepreneurs, mais c'est de les accompagner, c'est-à-dire d'identifier avec eux à la fois les risques qui se posent, par exemple sur le plan environnemental, s'il y a un problème de gestion des eaux usées, mais aussi les opportunités. Quand je vois le projet de Gabriel, on se dit qu'il y a une formidable opportunité de former des jeunes et de recruter en même temps.
Voilà. Voilà. Donc c'est de faire un bout de chemin ensemble avec ces chefs d'entreprise. Vous restez tous avec nous suite de votre quotidien de patron de PME. Le business est-il compatible avec une économie responsable? Bien sûr, les voisins et les voisines, si vous jugez ces témoignages comme de beaux discours et que vous voudriez en savoir un peu plus sur les résultats, vous nous appelez 33 1 84 22 71 71. Et si le temps d'un été... Voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Quelle responsabilité sociale pour les entreprises aujourd'hui en Afrique? Le business est-il compatible avec un vrai rôle social dans la communauté? Trois patrons de PME africains sont en direct chez 7 milliards de voisins. Vous êtes de passage à Paris, on est ravis de vous accueillir. Moussa Dia, vous avez monté une entreprise toute récente de terre cuite. Vous aviez déjà une entreprise dans le bâtiment au Sénégal. Gabriel Fopa, vous avez une entreprise de services conseil en informatique au Cameroun. Simon Rakotondraouv, vous êtes malgache et vous avez une entreprise d'exportation de litchi. Donc voilà, on est vraiment dans des domaines extrêmement différents. Et Elodie Noquet, vous êtes responsable de la gouvernance, de la responsabilité sociale des entreprises chez Investisseurs et Partenaires, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans les PME africaines et qui réunit justement ces 50 patrons de PME en ce moment. Et c'est grâce à vous que nous avons le plaisir d'accueillir des patrons de PME africaines. Bien sûr, les voisins, vous nous appelez pour participer au débat 33 1 84 22 71 71. Je vous lis le message posté par Moulunda qui a 29 ans, qui est à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il nous dit « L'implication sociale des entreprises pose un sérieux problème. Certaines entreprises chez moi font quelques œuvres sociales. » Mais seulement parce que c'est une contrainte gouvernementale. Les conditions sociales des travailleurs doivent être améliorées. Dans certaines entreprises, il n'y a même pas de cotisation sociale pour les travailleurs et certains sont virés sans décompte final. Quand est-ce que le gouvernement aidera ces travailleurs? Ou encore Fadjak, qui est à N'Djamena, au Tchad. Peu d'entreprises s'occupent réellement de la vie sociale de leurs employés. Les meilleures aident à la prise en charge médicale, mais c'est vraiment un plus. Au Tchad, le Code du travail exige que tout employé ait accès à la Caisse nationale de la prévoyance sociale. Seulement, les dossiers sont rarement traités dans les délais et l'argent dont nous devons bénéficier est rarement envoyé. Vous vous reconnaissez dans ces témoignages, tous les trois? Vous reconnaissez en tout cas le type de débat que vous pouvez avoir avec vos employés ou pas, Moussa Dia, au Sénégal?
Oui, c'est-à-dire que moi, je pense que nous avons pris les devants. Parce que nous avons une autre conception de l'entreprise, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Ce qui fait que, par exemple, pour être très concret, moi, je dis que dans notre entreprise, il y a une cantine qui existe, qui a été subventionnée à 75%.
Par l'entreprise.
Par l'entreprise. Les salariés prennent leur petit déjeuner là-bas et le déjeuner.
C'est-à-dire que ce n'est pas une contrainte que vous impose l'État?
Non, ce n'est pas une contrainte.
Ouais. Non, oui, par rapport à ce que nous disait cet auditeur.
Absolument pas. Et puis, c'est important l'aspect cantine. Ouais. Parce qu'au-delà de la responsabilité sociale, il vaut mieux que les salariés n'aillent pas s'infecter en allant manger n'importe où que de manger à un endroit où on est sûr de ce qui est fait. Et tout le monde dans l'entreprise chez moi est protégé. Hein. Donc, il y a des cliniques qu'ils ont choisies eux-mêmes.
Assurance santé.
Et on va plus loin même dans la créativité en termes de solidarité. Je ne vois pas comment, sans cette solidarité, il est possible d'agir en Afrique. Si je peux voler une minute pour dire qu'on a un point commun à tous les trois, l'exemple de Simon, tout à l'heure, est un exemple de milliers d'opportunités qu'il y a en Afrique. Ce que produit une terre dans un endroit est unique. Ce que va produire comme ananas le Cameroun, ce sera l'ananas du Cameroun, et partout ça peut servir. Et là où l'informatique a du sens, c'est que demain nous pouvons dématérialiser l'espace, qui fait qu'en un clic, le planteur du fin fond du Tchad ou du Cameroun, là où nous agissons, peut présenter au Japon son maïs, ces ananas en un clic. Donc,
vous voulez vendre un business à Simon à
Cotonou? Oui, mais là je reviens tout de même sur le fond du débat. Vous savez, dans une entreprise, ou plutôt dans un secteur d'activité comme le nôtre...
Le marché du litchi à Madagascar.
Le marché du litchi, par exemple. Vous savez très bien que toutes les grandes enseignes aujourd'hui exigent à ce que nous répondons à quelques référentiels, notamment le Global Gap, qui est donc
la
bonne pratique agricole. Et pour cela, d'amont en aval, il faut que vous ayez la traçabilité de votre produit. Au-delà de ça, il faut que vous sécurisez un environnement de la santé à l'hygiène. Et pour cela, donc, c'est tout cet apprentissage.
Très honnêtement, comment c'est faisable dans un pays aussi défaillant que Madagascar ?
Non, et là, je crois qu'il y a une erreur d'appréciation, puisque le fait même, comme vous avez dit, Emmanuel, que nous, on est capable tout de même de remplir un bateau de 7000 tonnes en 3 nuits et 4 jours, je mettrai ma main au feu, comme on dit, s'il y a très peu de pays qui peuvent le faire. Et ça prouve la haute capacité organisationnelle tout de même d'un secteur. Et ce sont tous des acteurs locaux. Il n'y a pas une seule entreprise étrangère qui est en train de le faire. Donc c'est pour ça que, pour nous, c'est quelque chose qui est complètement... auquel on adhère, c'est pas nouveau pour nous. Le partage, la sécurisation justement de nos acteurs, puisque nous sommes un ensemble d'acteurs.
Y compris former les agriculteurs à ne pas se faire avoir quand ils font la pesée du litchi, etc., et mieux comprendre les cours des marchés, etc.
Tout à fait, puisque aujourd'hui, vous savez que lorsque la campagne de litchi ne dure que pendant 7 jours ou 10 jours, mais la campagne se prépare 12 mois sur 12.
Alors je voudrais qu'on donne la parole, si vous le voulez bien, à Thierry Téné, qui est vraiment spécialiste de la responsabilité sociale des entreprises en Afrique. Bonjour Thierry Téné.
Bonjour Madame Bastide.
Vous êtes au Cameroun, vous êtes cofondateur de l'Institut Afrique RSE, vous êtes extrêmement actif sur le continent africain pour organiser des séminaires où les entreprises se parlent, mais parlent aussi à des ONG, ce qui est plus inédit. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose aujourd'hui de parler de responsabilité sociale des entreprises en Afrique ?
Quand on a écouté les patrons de PME, on voit tout l'intérêt, puisque aujourd'hui, certains l'ont dit, il est plus évident, notamment de mener certaines activités ou d'avoir certains types de clientèle, notamment des grands comptes, si on n'est pas engagé dans une démarche de responsabilité sociétale. Et d'ailleurs, il faudrait voir qu'à un moment, on sorte un peu de cette logique de RSE, c'est un peu l'aspect social, c'est un peu le dirigeant philanthrope. Non, on fait de la RSE parce que c'est une exigence du business. On fait de la RSE parce que sinon, les voisins ne seront pas contents. Les voisins, ça peut être les communautés, parce que si, effectivement, vous venez sur un territoire, vous ne prenez pas en compte les attentes de ces communautés, elles peuvent être un risque pour la sécurité de votre entreprise, et à partir de ce moment-là, les activités ne peuvent plus se développer. Les voisins, ça peut être aussi l'environnement. Si vous polluez l'environnement, même si en Afrique, on a encore un laisser-aller parfois sur ces questions-là, mais les voisins aussi, qui peuvent être les communautés ou l'État, peuvent à un moment donné vous sanctionner, et ce sera un coût très important pour votre entreprise. Donc aujourd'hui, à cause des investisseurs, à cause des donneurs d'ordre, et le fait nouveau, à cause surtout de la concurrence, les entreprises africaines s'arrivent de plus en plus à la responsabilité sociétale, si ce n'est pas encore construit selon les normes de la RSE, c'est encore parfois beaucoup de philanthropie, mais globalement, elles sont engagées, ou du moins elles savent qu'elles ne peuvent plus se développer de manière importante si elles n'intègrent pas cette question de responsabilité sociétale.
Mais aujourd'hui, alors quels sont les principaux freins pour que les entreprises africaines, les PME, puisqu'on parle des PME aujourd'hui, c'est quand même ça le nerf de la guerre des économies africaines, et pas seulement africaines d'ailleurs, on ne parle pas des multinationales, mais quels sont les principaux freins, les mentalités, l'absence d'État, qu'est-ce qui fait que ça pourrait finalement avancer plus vite?
Il y a un peu de tout ça. Nous, on a réalisé d'ailleurs plusieurs enquêtes sur cette problématique, qui sont de savoir pourquoi la RSE n'avançait pas assez en Afrique. Il y a un point qui ressort à chaque fois, c'est l'absence de politique publique. Parce qu'une entreprise, effectivement, certaines PME qui sont allées démontrer, qui va un peu plus loin que ce que l'État peut attendre, comment l'État les incite à faire plus de RSE. Effectivement, les politiques publiques de RSE en Afrique permettraient de stimuler et de déployer la démarche. L'État aussi a un rôle de contrôle. Si justement Thierry Téné a une PME où il respecte l'environnement et que le concurrent ne respecte pas et met sur le marché les prix moins chers qui sont plus compétitifs que ceux de Thierry Téné, bien évidemment, ce n'est pas évident que Thierry Téné continue à s'engager, à respecter la politique environnementale.
On est bien clair, quand même, là, il y a quand même la concurrence ne joue pas en votre faveur sur la responsabilité sociale. On achète au moins cher, au moins 10 ans en général, non?
C'est là où le rôle de l'État est important. En termes d'abord de régulation, d'abord de diriger les normes, c'est-à-dire de s'assurer que tous les acteurs se développent dans ce qu'on appelle la bonne pratique des affaires, donc en respectant l'environnement. Bien évidemment, Après, elles peuvent inciter. Par exemple, l'État aussi a ses faiblesses. On n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de ressources humaines. Par contre, ceux qui le respectent, comment l'État les incite? Le deuxième point, c'est celui des compétences. Aujourd'hui, les entreprises africaines qui veulent déployer la RSE, il n'y a pas assez de ressources humaines, donc de compétences, de formation sur cette problématique.
Et vous vous y employez d'ailleurs, hein, pour faire comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire pour un patron de faire du social. On n'est évidemment pas dans un discours humanitaire. Élodie Noquet, vous souhaitez réagir?
Oui, je crois qu'un des gros freins, comme le disait Thierry Téné, c'est l'argent et le temps, surtout pour des petites PME. Donc nous, notre rôle en tant qu'investisseur, quand on vient dans une entreprise, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui ont des projets. Souvent, ils ont toutes sortes d'idées, en fait, de choses qu'ils ont envie de développer, mais tout manque pour le faire. Donc on les aide, en fait, à la fois avec des financements et avec des missions d'accompagnement et des experts. Par exemple, comme on le fait avec Scrimad à l'heure actuelle.
L'atelier de transformation de Litchi, donc de Simon Ragotondrouve.
Voilà. On est en train d'explorer, par exemple, avec Simon, les possibilités de biogaz qui permettraient d'utiliser... les déchets de fruits qui vont être au sein de l'usine pour produire de l'énergie pour l'entreprise, qui permet à la fois de diminuer les coûts et en même temps de diminuer l'empreinte environnementale de l'entreprise.
À propos d'ailleurs de coûts d'énergie, parce que quand on est patron de PME et qu'on produit des biens, d'ailleurs même pour des services informatiques, ça compte l'énergie, mais pour vous, Moussa Dia, qui faites donc des briques de terre cuite pour la construction de bâtiments au Sénégal, vous êtes inspiré aussi de démarches environnementales pour utiliser, pour les fours, pour faire cuire les terres cuites, vous utilisez des d'arachide.
Oui.
Au lieu de déforester.
D'abord, au lieu de déforester, au lieu d'utiliser le fuel qui coûte un peu cher et qui pollue parce qu'il y a du soufre, nous avons préféré, ça a été très dur au début, d'utiliser les coques d'arachide.
Pourquoi ça a été très dur?
Parce que c'est une technologie que nous avons eu à innover qui consiste à broyer les coques d'arachide, à les microniser et à les fluidiser.
Vous avez diminué vos coûts d'énergie pour utiliser vos fours?
Oui, nous avons diminué sensiblement les coûts d'énergie dans un rapport de 1 sur 6.
Ah oui, vous avez divisé par 6 les coûts d'énergie. Vos employés, qu'ont-ils dit à ce moment-là? Ils étaient dubitatifs au départ? Ça leur posait un problème? C'était compliqué pour eux?
Oui, c'est là où je suis un peu pas d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure.
Thierry Téné.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des schémas logiques. Mais d'une manière générale, dans une entreprise, s'il y a de l'ingénierie, on arrive à diminuer certains coûts. Et ce qu'on gagnerait, on peut le mettre dans la responsabilité sociale. Parce que nous avons une autre mentalité aujourd'hui qui fait que il faut que les voisins, comme ils disent, s'approprient, par exemple chez nous, de l'usine. Il faut que nos salariés s'approprient de l'usine. Et de ce fait, nous, dès la conception de l'usine, nous avons eu, par exemple, à mettre une toiture de 2700 m² et toutes les eaux qui sont collectées dans un grand bassin que nous mettons à la disposition des populations.
Donc, ça veut dire que les quartiers avoisinants, là, vous êtes dans la région de Thiès, ça bénéficient d'eau gratuite.
Avec ça, ils peuvent faire l'agriculture, ils peuvent amener leurs animaux pour, quand ils ont soif, de venir boire. Bon, c'est dire que ce sont des devoirs qui se transforment en droits. Et ça, nous ne devons pas attendre l'État. C'est comme quand on crée nos entreprises, nous n'avons pas attendu des financements pour le faire.
Thierry Téné, vous souhaitez...
Je suis vraiment en ligne avec...
Gabriel Fauppas.
Ce n'est pas en contradiction avec ce que Thierry Téné a dit tout à l'heure. Les temps qui sont en Afrique aujourd'hui font que nous devons avoir cela en conviction. C'est-à-dire que c'est d'abord la conviction de l'entrepreneur. Il doit avoir un leadership communicatif pour que les collaborateurs puissent adhérer à cela. Et parce que mathématiquement, si on fait 100 francs de bénéfices CFA, on peut aussi décider de faire 70 francs de bénéfices de francs CFA. Et les 30 francs serviraient à faire quelque chose.
Dans une politique sociale pour votre entreprise.
Voilà. Et puis pour terminer, sur le plan de la mentalité africaine, de la psychologie africaine, c'est un tout global. Et c'est important de se projeter dans ce tout-là. Et on est dans l'entreprise, mais on est aussi à côté de l'entreprise.
Des fois aussi.
Thierry Téné, pardon, juste Thierry Téné veut réagir au Cameroun.
Oui, en fait, justement, je rejoins aussi le point de M. Topa, puisque le responsable des PME du Sénégal, en fait, il disait qu'il n'était pas d'accord avec moi, mais en fait, ce qu'il a développé va exactement dans le sens de ce que j'ai dit, puisque les initiatives environnementales qui ont été prises, le secteur de l'énergie, non seulement ça sécurise son approvisionnement, mais en plus, il réduit les coûts. Quand il collecte l'eau de pluie, ça permet ensuite d'avoir de bonnes relations avec les communautés. Et en même temps, peut-être cette eau-là peut être utilisée en entreprise, peut-être dans les toilettes ou autres. Donc vous voyez bien que ces initiatives environnementales, quelque part, rapportent à l'entreprise et permettent en fait le bon développement des activités. Et je pense que peut-être dans le débat, ce qui manque depuis le début, c'est quand même rappeler que la RSE, c'est quand même cette question centrale. Nous, parfois, un peu la difficulté de l'aborder. Vous voudrez beaucoup parler de celle des salariés. Bien évidemment, déclarer les salariés à la sécurité sociale, les former, mettre en place une cantine. Mais Madame Bastide, ça contribue à la compétitivité, ça contribue à la productivité.
Et est-ce que très honnêtement, les patrons de PME en sont persuadés aujourd'hui sur le continent africain, Thierry Tenet, dans la mesure où l'État exerce peu de coercition pour cela?
D'ailleurs, vous avez bien vu que les responsables de PME qui sont intervenus vous ont dit que quelque part, ils n'ont même pas regardé l'État. Pour pouvoir le faire. Mais c'était quelque chose d'important pour leur business. Bien évidemment, vous évoquez une question assez sensible et que même en Occident, ce n'est pas encore tranché. La question de l'engagement des PME. Juste une heure avant votre émission, on avait coupé la lumière à Douala. Donc j'aurais pu, si mon téléphone n'était pas chargé, j'aurais pu ne pas faire l'émission avec vous. Et ça, ce sont les réalités des PME africaines qui sont confrontées à ce problème d'énergie, à cette question de l'environnement des affaires. Donc ça rajoute une surcharge en plus. Mais bien évidemment, faire de la RSE sur chacune de ces questions centrales permet, par rapport par exemple avec les grands comptes, si vous faites de la RSE, c'est le cas par exemple M. Fopa, vous avez des clients et vous avez une fidélité avec ces clients qui sont sensibles à la démarche RSE. Et ça garantit le développement de vos affaires. D'ailleurs, nous organisons une rencontre sur la prise en compte de la RSE dans la sous-traitance, en partenariat avec la bourse de sous-traitance du Cameroun. L'objectif, c'est quoi? C'est de dire aux PME, effectivement, en vous engageant dans une démarche de RSE, non seulement c'est un intérêt pour votre entreprise, mais en même temps et surtout, ça vous garantit certaines clientèle.
Bon, merci beaucoup Thierry Tenet. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'Institut Afrique RSE, responsabilité sociale des entreprises. On aura, j'espère, l'occasion de vous recevoir en studio, en direct, chez 7 milliards de voisins pour revenir à la responsabilité des patrons de PME sur le continent africain. Nous accueillons une voisine qui nous appelle au standard au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Nelly. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Paris, mais vous êtes originaire de Pointe-Noire au Congo. Brazza.
Tout à fait.
On vous écoute, Nelly.
Moi, je soutiens ce que vient de dire Thierry tout à l'heure, que je salue au passage. C'est qu'en fait, l'accès au marché conditionne l'engagement des PME africaines à la RSE. À Pointe-Noire, quand vous rencontrez une entreprise qui est réellement impliquée à la RSE, c'est qu'elle a un marché avec une multinationale. La RSE est d'abord appliquée aux multinationales parce qu'il y a la bourse derrière, parce qu'il y a les actionnaires qui ne veulent pas que leur entreprise ait une mauvaise image. Et quand les PME s'engagent là-dedans, c'est qu'il y a un marché. Ils sont sous-traitantes d'une entreprise multinationale. Voilà.
Et vous le déplorez ?
Je le déplore en soutenant ce que venait de dire Thierry, dans ce sens que le gouvernement aurait, les États auraient intérêt à sensibiliser davantage les PME, qui gagneraient énormément à avoir une certaine traçabilité dans la manière d'appliquer leurs responsabilités au niveau de la société. Plutôt que d'attendre des marchés pour pouvoir les appliquer.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à cet auditrice, Gabriel Chopa, en informatique?
Je ne suis pas à l'aise avec le fait que c'est parce que l'on a des relations avec une multinationale d'affaires qu'on s'inscrit dans un.
En gros, est-ce que vous êtes à la botte des multinationales
non,
et c'est pour ça que
tout.
Vous faites de la responsabilité sociale?
Je dois même dire que les multinationales peuvent se permettre, mais une PME, une gestion de trésorerie tendue, quand elle le fait, c'est parce qu'elle est convaincue.
Ça doit être Simon, raconte-nous Raouve pour le marché du litchi à Madagascar.
Non, moi je trouve que c'est
vos débouchés, c'est exclusivement les marchés européens. Vous vendez donc à des...
Non. Maintenant, on a des marchés émergents qui ne nous demandent pas du tout ce type de contraintes. Et c'est là, je crois, que le problème, si on prend la chose comme une contrainte, et alors là, c'est tout à fait différent. Nous, c'est vraiment une mode de pensée. C'est une stratégie de développement de notre entreprise. Car nous avons bien stipulé au départ que sans cette démarche volontaire des entrepreneurs locaux, il n'y aura pas un développement durable et surtout un partage au niveau de la grande majorité de la population. C'est clair, aujourd'hui, et c'est là où je ne suis pas non plus d'accord, il ne faut pas que ça soit que l'État joue éternellement son rôle de gendarme. Il faut que ça soit une prise de conscience de la part des acteurs. Il faut que nous pratiquons l'autocensure en termes au niveau de RSE.
Mais là, vous êtes patron de PME, vous tenez un discours politique ?
Non, pas du tout, puisque comme je vous ai dit, lorsqu'on est convaincu qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on a intérêt à partager et surtout à être de pair, à avoir des partenaires au niveau de nos producteurs, que de les avoir comme... Vous voyez, nous ne sommes pas dans une pratique de achat et vente aujourd'hui. Ce sont des partenaires avec nous. Et c'est ça le plus important.
Moussadia, vous souhaitez répondre à notre auditrice.
Oui, parce que moi, j'ai un marché national. Je n'exporte pas. Je fais
donc des terres cuites, c'est ça ?
Oui, je fais des briques. Je ne fais pas de parpaing. Je suis dans un pays où on construit mal. Parce que dans ce pays, les gens construisent avec des parpaings.
Il n'y a pas qu'au Sénégal.
Moi, je connais mon pays, en tout cas, je ne connais pas les autres. Mais nous, au Sénégal, on construit avec des parpaings en ciment, bien qu'on les appelle des briques. Mais ce ne sont pas des briques. La brique est toujours en terre. Soit elle est cuite, soit elle n'est pas cuite. Ce qui se passe, c'est que nos constructions sont tellement mal isolées qu'il fait extrêmement chaud à l'intérieur pendant la saison sèche. Et c'est comme si nous, on était... des damnés pour accepter d'habiter dans des maisons extrêmement chaudes. Et je me suis battu et je me bats toujours pour qu'on construise avec des briques parce que ça amène un confort thermique à l'intérieur.
Et ce ne sont pas les multinationales qui vous dictent
ces normes. Absolument, au contraire, parce que quand dans une maison, elle est en terre cuite, la consommation en énergie diminue parce qu'on n'a pas besoin de climatiseur, on n'a pas besoin de brasseur d'air et ce qui diminue la consommation. Parce que nous voyons au Sénégal, par exemple, quand il fait très chaud, il y a des pics de consommation d'énergie et ce qui amène des coupures d'électricité à cause de ces pics d'énergie. Et si les maisons étaient isolées et s'il y avait ce confort thermique, il n'y aurait pas ces pics d'énergie.
Nelly, est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous ?
Oui, je suis encore en...
Est-ce que vous êtes satisfaite des réponses de nos patrons de PME ?
Bon, je dois avouer que les situations ne sont pas les mêmes selon les pays. Certainement qu'il y a des pays où les politiques publiques ont évolué en la matière. Il y a certains qui ont même mis en place des politiques locales contraintes après la RSE. Mais j'avoue que dans plusieurs pays, les petites entreprises n'ont aucune notion de leur responsabilité. Donc il y a un travail de sensibilisation et au passage, je salue le travail mené par les associations qui ont permis de faire cette veille pour préserver l'environnement.
Et les ONG, bien sûr, qui dénoncent effectivement les manquements, notamment pour l'environnement, mais pas seulement, les manquements vis-à-vis des salariés. Merci beaucoup, Nelly. Vous pouvez nous appeler. Oui, il nous reste extrêmement peu de temps. 33 1 84 22 71 71. Tous les trois, Moussadia, Gabriel Fopa, Simon Rakotondraouve, vous êtes patron de PME en Afrique. Ça veut dire que votre quotidien, c'est se débattre avec des problèmes permanent parce que tout manque. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel ordre vous mettriez les problèmes. L'absence de route, l'électricité, l'absence de compétences, les défauts de crédit bancaire, le problème pour avoir des locaux professionnels. Vous me disiez qu'au Cameroun, il faut payer 2 ans de loyer d'un coup pour avoir des locaux professionnels. Gabriel Fopa ?
Oui, là c'est un gros problème. Ça, c'est pour les créateurs d'entreprises. Je suis convaincu
mais alors,
que l'État...
Qu'est-ce qui compense tous ces manques, là, tous ces problèmes
du beaucoup quotidien. De créativité et beaucoup d'amour. Utilisons le mot passion, peu importe, c'est quelque chose qui est qui est au-delà de l'amour de l'argent. Sinon, on ne peut pas tenir. Et puis, il faut beaucoup de créativité. J'ai la chance, en ce moment, au Cameroun, il y a une effervescence de chantiers. Bon, il y a beaucoup de projets en cours, mais le quotidien n'est pas facile, les coupures d'électricité, etc.
J'ai pas cité l'administration fiscale, mais peut-être les défaillances de l'administration fiscale, ça vous arrange parfois?
Disons que l'Afrique est le seul endroit aujourd'hui où il est possible de partir d'une petite idée, de la faire grandir, de faire de l'argent et de trouver de l'emploi aux gens.
L'essentiel aussi, d'après moi, aujourd'hui, c'est notre capacité de mobiliser, hein, puisque, par exemple, à Madagascar, il y a une multitude de financements, mais qui ne sont pas, je dirais, coordonnés. Donc, c'est là, par exemple, même moi, c'est à peine il y a un an que j'ai su l'existence de IEP, par exemple,
partenaire
qui nous accompagne aujourd'hui.
Moussa Dia, pour vous?
Vous savez, hein, l'entrepreneur, c'est par définition un homme solitaire qui se bat pour une cause, comme l'a bien dit mes amis.
C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes content en ce moment là de vous retrouver tous, hein, avec des problèmes communs.
Et c'est la première fois pratiquement qu'on se voit et on n'a jamais discuté, mais il y a beaucoup de points communs.
Merci en tout cas à vous tous. Moussa Dia, entrepreneur au Sénégal, Gabriel Fauppa, entrepreneur au Cameroun, Simon Rakoton-Draouve, entrepreneur à Madagascar. Merci d'être venu nous parler en toute sincérité de vos problèmes et puis de la façon dont vous concevez la responsabilité sociale, votre rôle au sein de votre communauté, Elodie Noquet, de Investisseurs et Partenaires. Et merci aussi à Thierry Tenet de l'Institut Afrique RSE. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, vous saurez tout sur la communication sans violence. Rediffusion de notre émission sur le sujet, au travail, dans la famille ou le voisinage. Savoir parler au lieu de frapper, ça peut servir. À demain les voisins et les voisines.
Autour de la question.